Bon, ben on est mardi matin et on vit officiellement dans un monde parallèle. Les marchés tutoient les sommets, la Chine dégringole. Économiquement parlant, en tous les cas, Trump menace, Powell transpire et reste sous pression. Et pourtant, là, quand on regarde comme ça autour de nous, tout le monde est super zen. Alors avant de rentrer dans les chiffres, les vrais, les faux et ce qu'on nous balance pour la décoration, je vous propose de prendre juste 3 minutes de recul parce que entre les sketchs de Trump, l'inflation fantôme et les exports chinois qui s'effondrent, c'est peut-être le bon moment de se demander est-ce que l'on vit encore dans une économie réelle ou juste dans un conte de fées algorithmique avec un fond sonore de bull market qui ne survit que parce qu'il espère que ça ira mieux demain? Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On va donc commencer par les indices américains, toujours à deux doigts des records historiques, et pourtant, économiquement, rien ne suit vraiment. Mais c'est pas grave, parce que pour l'instant, on regarde ailleurs. On regarde la géopolitique, les droits de douane, les sketchs de Trump, avec en bonus cette semaine, la garde nationale à Los Angeles pour calmer les émeutes, ou démarrer une guerre civile, on ne sait plus trop, et puis surtout, depuis ce matin, c'est pas que la garde nationale, puisque les Marines arrivent aussi. Wall Street s'en fout, mais si le Congrès commence à s'en mêler, on pourrait vite glisser vers un autre délire, le plafond de la dette, parce qu'à force de se fâcher avec tout le monde, même ses copains républicains risquent de demander à Trump de se calmer un petit peu, surtout si on veut éviter un défaut d'ici l'automne. Mais bon, pour l'instant, tout va bien, c'est d'ailleurs le mantra qu'il faut répéter tous les jours, tout va bien. Tout va bien. Et si vous dites ça en respirant avec le ventre, ça devrait bien se passer. Autre sujet chaud du moment, bien sûr, les négociations avec la Chine. Elles ont repris hier, pas un mot, pas un tweet depuis, pas un pigeon voyageur, pas une carte postale. Le marché se dit bon, tant qu'il parle, c'est que c'est bon signe. Trump dit que ça se passe bien. D'ailleurs, il le dit un peu trop souvent à mon goût, mais apparemment ça se passe bien. Sauf que pour l'instant, la Chine est tout de même à l'arrêt, littéralement. Les exports vers les USA ont chuté de 34% en mai, c'est la plus grosse gamelle depuis février 2020, et c'est le deuxième mois consécutif de baisse. Même avec un moratoire en place, la demande s'écroule. Les droits de douane à 30%, ça fait quand même toujours très très mal à l'économie. Alors Pékin tente la diversion, faire transiter le tout par le Vietnam pour contourner les réglementations américaines. La hausse des exports en direction du Vietnam est de 22%. En gros, c'est du commerce mondial version cache-cache, mais ça ne peut pas tenir comme ça. Il va falloir que la Chine trouve un deal. C'est ce qui rassure les marchés. Les négociations reprennent actuellement, mais il nous faudra plus qu'un moratoire à rallonge pour nous détendre. On aimerait un deal, un vrai. Puis d'ailleurs, quand on regarde juste les chiffres chinois qui sont sortis hier, c'est une catastrophe. Ça s'enfonce toujours un petit peu plus. Et au milieu de tout ça, bien sûr, il y a l'inflation. L'inflation qu'on attend, l'inflation qu'on redoute, l'inflation qu'on annonce et qui pour l'instant ne vient pas, ou pas encore. Tous les experts, ceux qui changent d'avis à chaque pleine lune, nous juraient que l'impact des tarifs douaniers se verrait en avril, puis après en mai, voire en juin. Mais maintenant, les chiffres le montrent, pour l'instant, l'inflation est maîtrisée. Alors on repousse, on dit, ah vous verrez, s'il y aura vraiment l'impact d'ici la fin de l'été. Et puis si entre-temps, il y a un accord qui est trouvé, bah alors il y aura peut-être plus d'impact du tout, ou pas. En tout cas, peut-être que Trump a raison, l'inflation n'existe pas et Powell est peut-être juste un abruti qui refuse tout simplement de baisser les taux. Mais quoi qu'il en soit, on en saura plus demain avec le CPI. Mais soyons honnêtes, hein, même si l'inflation repart, ce sera attendu et Trump trouvera bien un moyen de sortir une connerie assez grosse pour que ça rassure tout le monde. Les marchés sont dans un mood, ça monte et rien ne peut nous arrêter. Le record historique sur le S&P 500 est une évidence et je ne vois pas comment on n'y arriverait pas. On a laissé la peur du 2 avril derrière nous, on l'a enfermé dans un placard, un peu comme les monstres qu'on avait sous nos lits quand on était gamin. On se dit que tant qu'on n'y pense pas, eh ben on n'a pas peur. C'est soit de la naïveté, soit de la procrastination. Et pourtant, si l'inflation revient, vraiment, on est mal. Parce que Trump veut baisser les taux et Powell ne peut pas. Il ne veut pas relancer l'économie en pleine tension inflationniste. C'est un peu comme balancer de l'essence sur un feu en espérant que ça va l'éteindre. Si tu baisses les taux, tu relances la demande. Si tu augmentes les tarifs douaniers, tu augmentes les prix. Et si tu relances l'économie alors que l'inflation s'apprête à rebondir, ça ne peut pas bien se terminer. Et puis alors, eh bien, il y a les chiffres de l'emploi. J'en ai déjà parlé dans le Swiss Bliss ce week-end, mais quand même. 139 000 emplois créés, soit 14 000 de plus que les attentes. Alors vous avouerez qu'il y a de quoi se rouler dans le caviar. Sauf que, on a révisé avril à la baisse, moins 30 000, et puis mars, moins 65 000. Donc 95 000 jobs évaporés de l'indifférence générale. Et pendant ce temps, bah, une autre enquête nous dit que 696 000 personnes ont perdu leur job. Ah oui, et puis aussi que 625 000 ont quitté la population active parce qu'ils sont découragés. Mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, c'est le mot magique. Les marchés montent, les experts disent que c'est cohérent et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Bah ça, c'est la vraie magie de 2025. On vit dans un monde où les chiffres sont bidons, mais tant mieux parce que pour l'instant, les marchés adorent. D'ailleurs, on commence à trouver des médias qui osent dire que les chiffres sont bidons. C'est pas juste moi qui suis de mauvaise foi. Wall Street essaye encore de comprendre si l'économie américaine est en train de ralentir ou si les chiffres sont juste pourris. Et la surprise, même les stats officielles commencent à sentir le pâté. Cette semaine, on a d'ailleurs appris que le Bureau of Labor Statistics, le fameux BLS que j'adore, celui qui pond les chiffres de l'inflation et des NFP, a dû réduire la collecte de données faute de budget. En clair, plus assez de bras pour aller interroger les prix dans certaines régions. Résultat, certains détails du fameux CPI, celui qui sort demain, pourraient être un peu plus volatiles. Déjà qu'ils étaient mauvais avant, j'ose pas imaginer ce que ça va donner maintenant. Non. Et puis c'est pas tout, il y a aussi la perception. Parce qu'un analyste disait hier, tout le monde sait que les chiffres sont foireux, mais on continue à faire semblant parce que c'est la perception qui compte. La Fed, elle bosse surtout avec le PCE, mais là aussi c'est basé sur des données pourries collectées à la ramasse avec des chiffres qui sont tout simplement tirés par les cheveux. Et si vous vous demandez si ça peut fausser la politique monétaire, eh ben la réponse est oui, puisque certains économistes estiment même que si les vrais chiffres avaient été disponibles plus tôt, la Fed aurait pu éviter les hausses de taux de 2023 ou alors commencer à baisser les taux plutôt. Pendant que les chiffres de l'emploi sont systématiquement révisés à la baisse, pendant que l'inflation est mesurée à moitié par des gars qui n'ont pas le budget, la Fed, elle doit décider quoi faire de ses taux à tâtons. Et les investisseurs, eh ben, évidemment, ils naviguent à vue. En résumé, les chiffres économiques US ne sont plus aussi fiables qu'ils ne le furent dans le temps, mais c'est pas moi qui le dis. Le BLS manque de moyens, la Fed navigue dans le brouillard, les marchés font semblant que tout va bien, et tout le monde se prépare à taper les plus hauts de tous les temps. C'est un peu le résumé de ce qu'on vit en ce moment. Mais revenons juste deux secondes sur les chiffres de l'emploi, parce qu'on va pas juste se contenter de dire du mal sans creuser un tout petit peu le sujet. Il faut quand même retenir qu'en mai, il y a eu un écart énorme de 835 000 emplois entre les deux principaux indicateurs du marché du travail américain. D'un côté, le rapport officiel sur l'emploi, les non-farm payrolls, annonce 139 000 nouveaux emplois créés, et de l'autre, 696 000 personnes auraient perdu leur job selon l'enquête auprès des ménages, soit la deuxième pire chute depuis 2020. L'enquête auprès des ménages, c'est ce qu'on appelle le Household Survey. Ben, ce Household Survey est souvent jugé plus précis, parce qu'il ne compte chaque travailleur qu'une seule fois, même s'il cumule plusieurs jobs. Et comme si ça suffisait pas, 625 000 personnes ont quitté la population active en mai, ce qui montre encore une détérioration encore plus profonde du marché du travail. Donc c'est des gens qui ont arrêté de chercher du travail, c'est des gens qui ont abandonné leur recherche et qui passent à autre chose. Autre chose, on sait pas quoi. Bref, les chiffres ne collent pas, ne sont pas extraordinaires, et je sais pas vous, mais moi je trouve que ça commence un tout petit peu à se voir. Oui, l'Amérique crée des emplois pendant que tout le monde perd son boulot, ça paraît quand même un peu bizarre. L'écart entre les deux chiffres, c'est 835 000 jobs. Normalement, même Bruno Le Maire devrait voir qu'il y a un truc qui cloche. C'est même plus un écart, c'est un trou noir statistique. Mais alors, en gros, ça veut dire quoi ce délire? Oui, parce que ces deux chiffres mesurent le même marché du travail, mais pas de la même façon. Les NFP, eux, ils comptent les postes créés. Même si un gars a trois jobs, ils s'en foutent, ils comptent trois créations d'emplois. L'enquête des ménages, elle compte les personnes qui bossent, pas le nombre de contrats. Donc si les gens multiplient les petits boulots pour survivre, l'un voit une hausse plus de postes et l'autre voit une chute et c'est probablement ce qui est en train de se passer. Mais le plus flippant, c'est peut-être que 625 000 personnes ont carrément quitté le marché du travail en mai. Plus d'un demi-million d'Américains qui jettent l'éponge, arrêtent de chercher un boulot ou se découragent. Ça sent clairement la fatigue économique, l'usure sociale ou une perte de confiance dans le système. En conclusion, ça ne colle pas du tout et ça ne va pas du tout. Quand un indicateur dit tout va bien et que l'autre hurle c'est en train de s'écrouler, bah tu sais que soit les chiffres sont biaisés, mal foutus ou manipulés, soit l'économie est en train de muter et les indicateurs classiques ne suffisent plus pour la comprendre, et comme le dernier truc que je connais qui a muté, c'est le virus du Covid, je préfère pas y penser. Soit la Fed et Wall Street vont encore prendre de mauvaises décisions sur la base de données à moitié bancales. Résultat, personne ne comprend vraiment ce qui se passe sur le marché de l'emploi aux États-Unis, mais ce qui est sûr, c'est que le vernis commence à craquer sérieusement. Mais que l'on se rassure, ce matin, les futurs sont en hausse et tout le monde se réjouit de l'accord qui va être annoncé avec la Chine, parce que ça devrait régler tout le problème une fois pour toutes, même tous les problèmes une fois pour toutes. Et si ça ne suffit pas, bah c'est pas grave, on trouvera un autre narratif pour compenser. Mais pendant que nous sommes en train de gérer la macro comme Don Quichotte gérait les moulins avant, il s'est quand même passé deux trois trucs qu'il faudra retenir. D'abord, Tesla tente un rebond, plus 4,5% hier, après 3,8% vendredi. Mais alors, faut pas s'y tromper, la semaine dernière, ça reste une boucherie avec une chute de 15%, la pire depuis octobre 23. En cause, bien sûr, le bon vieux clash entre Musk et Trump. Et cela dit, Tesla, c'est pas que Musk, et le marché a les yeux rivés sur les fameux robots taxis annoncés à Austin ce jeudi. Sauf que Tesla, pour l'instant, n'a toujours rien confirmé officiellement. Et puis côté Apple, c'est la douche froide après leur réunion des développeurs. Le titre perdait 1,2% après une conférence où il ne s'est rien passé. L'update sur Siri, qui était hyper attendu, est repoussé sans date précise. Et selon un analyste hier soir, si Steve Jobs avait vu ça, eh bien il aurait probablement fait un malaise. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de très sexy qui sort de chez Apple. Résultat, pour l'instant, le titre reste en baisse de 20% sur l'année. Et puis autrement, on retiendra aussi du côté des recalés du S&P 500. Robinhood, Applovin, Chenier Energy et Interactive Brokers ne sont finalement pas rentrés dans le S&P 500. Standard & Poor's a décidé de laisser l'indice tel qu'il est. Et puis on va d'abord le laisser monter à 7000. Finalement, cette histoire de nouveaux entrants dans le S&P 500, c'était beaucoup de bruit pour rien. En revanche, Nvidia continue sa tournée mondiale façon rockstar de l'IA. Jensen Huang a ouvert le London Tech Week main dans la main avec le Premier ministre britannique sous les applaudissements. Il paraît que même les Beatles n'avaient pas eu droit à un tel accueil. Il y a même des journalistes qui disent que Jensen Huang, c'est Iron Man ou Tony Stark, c'est selon. Et puis retournons un peu dans le monde du réel, puisque côté santé publique, Robert F. Kennedy vient de virer l'intégralité du comité d'experts du CDC sur les vaccins, sans prévenir. Il l'a tout simplement fait via une tribune dans le Wall Street Journal. Il dénonce des conflits d'intérêts persistants, remettant en cause le fonctionnement du comité. Donc la communauté scientifique est en train de baliser, parce que personne ne sait qui va les remplacer. Visiblement, Casimir est indisponible, Bozo le clown aussi, mais il se murmure que Olivier Véran et Agnès Buzyn auraient envoyé leur CV pour postuler. Pendant ce temps-là, chez les robots, on continue le grand remplacement puisque OpenAI dépasse les 10 milliards de dollars de revenus annuels récurrents à peine 2 ans et demi après le lancement de ChatGPT. Et pour finir sur une note plus musclée, comme je vous le disais en début de vidéo, Trump vient donc d'envoyer 700 Marines à Los Angeles après la garde nationale. Alors là, honnêtement, on ne sait pas où ça va, mais visiblement, on y va. Autrement, côté chiffres de la journée, pas grand-chose, mis à part le Seco en Suisse pour prendre la température du moral des consommateurs. Et ce soir, histoire de faire plaisir aux nostalgiques, GameStop publiera ses résultats. Mais franchement, tout le monde s'en fout, les futurs montent de 0,42%. Et on a tous l'air convaincus que tout va bien se passer. Tout monte, tout va bien, personne ne comprend rien. Et on a des doutes sur les chiffres qu'on nous donne, mais tout le monde fait semblant que c'est normal. Tant que Trump tweet que Powell panique pas et que la Chine reste à la table des négociations, la fête peut continuer. Et si l'inflation revient, c'est pas grave, on la glissera sous le tapis avec un grand sourire en espérant que personne n'a rien vu. Et au pire, on inventera une histoire pour faire passer la pilule. Bref, tout va bien jusqu'au jour où ça n'ira pas. Mais ce jour-là, on dira qu'on l'avait pas vu venir. Comme d'habitude. Voilà, passez une excellente journée et rassurez-vous, si vous pensez que je suis pessimiste ou négatif, vous verrez comment ça va faire demain quand je vais vous parler de la consommation aux États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, de la liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et pour le reste, pour la suite, pour une nouvelle analyse des chiffres qui vont bien, eh bien, on se voit demain, comme d'habitude. Bye bye, bonne journée.